3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le capitaine Ahab est un héros tragique shakespearien créé en 1851 par l'auteur Herman Melville. Il faudra plus de 18 mois à l'auteur pour créer l'œuvre magistrale de Moby Dick, qui deviendra légendaire et qui peindra ce personnage iconique ayant une faculté morale et intellectuelle morbide et vengeresque, placée dans des circonstances particulières. Ahab a été appelé ainsi par sa mère, une veuve folle qui mourut lorsqu'il avait un an. À 18 ans, le personnage imaginaire s'embarquera alors pour la première fois comme garçon harponneur à bord d'un navire. Élevé d'un côté dans des grandes écoles du monde et de l'autre à travers des tribus cannibales, le futur capitaine se mariera moins de 3 voyages avant celui du roman de Melville à une douce femme résignée dont il aura un jeune garçon. Quelques années avant cela, Ahab et Peleg deviendront copropriétaires du Pequod, un navire qui servira à la pêche à la baleine. Peleg naviguera comme second sous les ordres d'Ahab. Pendant leur premier voyage, un ouragan près du Japon a fait chavirer le trois-mâts. À chaque instant, l'équipage a pensé que le bateau allait couler, que la mer allait le briser. Mais, au lieu de penser à la mort, le capitaine Ahab et Peleg pensaient à sauver tous les marins et réfléchissaient aux moyens de ramener le bateau au port le plus proche, ce qu'ils réussiront. Lors d'un de ses derniers voyages, le Pequod affrontera une baleine blanche, le plus monstrueux cétacé que le navire rencontrera et qui arrachera alors la jambe d'Ahab. Par la suite, la douleur que lui cause son moignon rendra l'homme d'une humeur maussade et ce dernier sombrera alors quelque peu dans la folie, se servant d'un os de baleine comme prothèse. Le reste tombera alors dans la légende, ce combat titanesque entre l'homme maintenant âgé de 58 ans et cette créature aquatique traversera les décennies de l'univers littéraire. La mort d'Ahab serait apparemment basée sur un événement réel. En effet, le 18 mai 1843, l'auteur de Moby Dick, Herman Melville, était à bord du Star, qui faisait voile vers Honolulu. À bord se trouvaient deux marins du bateau Nantucket, qui lui auraient dit avoir vu leur second arraché du baleinier par un cordage pourri et noyé. Ce sera cet événement qui l'inspira pour sa conclusion de son roman légendaire. Donc, sortez vos harpons et préparez-vous à vous rendre en mer pour ce programme double titanesque où l'âme du capitaine Ahab vous sera présentée à travers les gestes du personnage du capitaine Nolan dans le film de 1977 Orca, ou encore à travers la véritable histoire de ce personnage iconique dont il s'agira ici de la 4e adaptation cinématographique sur le grand écran, j'ai nommé Moby Dick de 1956.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Class, come to order. Pay attention just once. We have a lesson to teach to the dunce.
Is the candy good conviction?
Yeah, the tasty is perfection.
Have we got a good selection?
We invite your close inspection.
Is the ice cream not delicious? Helpful, tasty, and nutritious. Is the popcorn crisp and helpful?
Yeah, and it is sure a muffle.
Is the soda cold and fizzy?
Vitamins keep the bubbles busy.
That's good, the lesson is learned. A trip to the sweet spa you have earned. Now it's time for intermission.
Treat yourself to some nutrition.
I've been out there most of my life. You name it, I've hooked it. But there's one. One that's always eluded me. Thought I had it in the blizzard of 93. Never even came close. It's got those eyes. Those unmistakable eyes. They haunt my dreams. Folks around here think I'm crazy. But when you've seen the things I've seen, it can change a man. Sometimes, I actually think it's mocking me.
What?
See your next movie completely free. And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
The ancient Romans called him Orca Orcinus, Latin for bringer of death. He is without challenge the most powerful animal on the globe, the killer whale. Orca has 48 teeth set in two impressive rows. In some respects, the orca's intelligence may be even superior to man's. They remain loyal to one mate for life. As parents, they are exemplary, better than many human beings. And like human beings, they have a profound instinct for vengeance. An innocent creature is destroyed by an act of human cruelty, and the ultimate battle of man against nature begins. Dino De Laurentiis presents Orca.
Can you commit a sin against an animal?
He followed you. He saw you on the deck of the boat.
They always remember the human being who had tried to harm them.
He deliberately left you your boat because he wants to fight you on the sea.
I won't do that.
Now the fish have vanished from the fishing grounds. And it's all because of your whale.
In fact, I won't fight him at all.
You're not even man enough to accept the excitement of his challenge.
I'll fight you! You're a vengeful son of a...
Orca, starring Richard Harris, Charlotte Rampling, Will Sampson, Keenan Wynn. A spectacular adventure. From the depths of the sea... to the top of the world.
It's going to be a fair fight, on equal terms.
A fight to the death.
Nolan!
Between the two most dangerous animals on Earth.
What in hell are you?
Man and Orca.
Orca est un drame d'aventure distribué par les studios Paramount Pictures le 22 juillet 1977. Ce film américain, italien et des Pays-Bas, d'une durée de 92 minutes, a coûté 12 millions de dollars à produire, mais ramassera plus de 14,7 millions au box-office nord-américain. Derrière la chaise du réalisateur, on y retrouve Michael Joseph Anderson, ce réalisateur britannique qui nous avait donné les films de Logan's Run, Millennium et Doc Savage. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve Dino De Laurentiis, lui qui avait produit les films Dead Zone, Flash Gordon et Serpico, ainsi que Luciano Vincenzoni, dont il s'agit ici de la première et dernière expérience au poste de producteur. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste Sergio Donati, ce scénariste italien qui avait travaillé sur des films tels Once Upon a Time in the West, Raw Deal et Doc You Sucker, ainsi que Luciano Vincenzoni, ce scénariste italien qui a travaillé sur des films tels Verdict, Tough Guys, L'Immigrante et Once Upon a Crime. Dans la distribution, on y retrouve Richard Harris dans le rôle du capitaine Nolan, Charlotte Rampling, Will Sampson, Bo Derek, Keenan Wynn, Robert Carradine et Peter Hooton. En voulant capturer un épaulard, un pêcheur de Terre-Neuve blesse mortellement la femelle enceinte du cétacé. L'animal marin s'attaquera alors aux installations du petit port où l'homme réside, forçant ce dernier à affronter en haute mer la bête vengeresse. Luciano Vincenzoni, reconnu comme l'un des plus réputés scénaristes d'Italie, sera contacté par le producteur Dino De Laurentiis au milieu d'une nuit de 1975, car ce dernier venait de regarder le film Jaws du jeune metteur en scène Steven Spielberg et chargera alors l'écrivain de trouver un poisson plus dur et plus terrible que le grand requin blanc. Ayant eu peu d'intérêt pour la vie marine auparavant, Vincenzoni sera dirigé vers les orques par son frère Adriano, qui s'intéressait personnellement à la zoologie. Après avoir terminé l'écriture du scénario avec l'aide du scénariste italien Sergio Donati, dont certains événements seraient basés sur des faits réels, Vincenzoni se fera alors offrir le poste de producteur par Dino De Laurentiis, une première dans sa carrière. Il embauchera alors le réalisateur Michael Anderson en février 1976 et ce dernier travaillera sur la pré-production du long-métrage qui sera connu sous le titre de travail « The Killer Whale ». Le tournage débutera le 14 juin 1976 près de St. John's à Terre-Neuve au Canada et ce, durant la saison de pêche. La plupart des séquences furent tournées dans la ville de Petty Harbor à environ 15 km au sud de St. John's. Le 20 juillet, la production se déplacera vers la nation insulaire méditerranéenne de Malte pour se rendre par la suite aux États-Unis et finalement en Australie. Le tournage se terminera en octobre de cette même année. Richard Harris refusera de travailler avec Ingrid Bergman sur le film The Serpent's Egg pour réaliser ce film. Ce fut une décision qu'il regrettera profondément pendant des années. De plus, Harris commencera à boire beaucoup sur le plateau de tournage, surtout après avoir lu un tabloïd et vu une photo de sa femme, Anne Turkle, sur une plage avec un homme beaucoup plus jeune. Selon Vincenzoni, l'acteur aurait même eu l'intention d'arrêter de jouer et de s'envoler pour Malibu afin d'assassiner les deux amants, ne revenant sur sa décision qu'après s'être engagé dans une bagarre avec le producteur italien qui laissera à ce dernier un œil au beurre noir. Après avoir été convaincu de rester, Harris, alors âgé de 46 ans, insistera pour effectuer lui-même ses propres cascades dans les séquences polaires, ce qui faillit lui coûter la vie à plusieurs reprises. Orca sera considéré comme le premier long-métrage cinématographique de la jeune actrice Bo Derek, un temps promue comme femme la plus belle au monde. Bien qu'il s'agisse effectivement du premier film sorti en salle, mettant en vedette Derek, ses vrais débuts auront lieu dans le film Fantasies, qui sortira en salle en 1981, malgré le fait que le long-métrage fut tourné en 1973, soit 3 ans avant Orca. Les orques qui furent utilisés pour le tournage étaient des animaux entraînés des parcs aquatiques Maryland of the Pacific et du Marine World Africa. Il est à noter que des baleines en caoutchouc artificiel ont également été utilisées pour le tournage. Ces reproductions caoutchoutées étaient si réalistes que plusieurs militants des droits pour les animaux ont bloqué les camions qui les transportaient en direction du plateau de tournage, les confondant avec de véritables orques. Le requin utilisé au début du film, qui sera un clin d'œil bien sûr au film Jaws, a été capturé par le célèbre chasseur de requins Ron Taylor. De plus, le décor destiné à représenter une région polaire éloignée du Labrador a été fabriqué à Malte par le designer Mario Garbuglia. Filmé au large des côtes de Malte et de Terre-Neuve, Les séquences dans lesquelles les polars apparaissaient en gros plan furent réalisées à l'aide d'une baleine animatronique et filmées au large des côtes de Malte et de Terre-Neuve. Pour compléter le visuel, des images d'archives seront alors utilisées, ces dernières provenant du parc Marine World à Redwood City en Californie. Ces images d'archives montraient deux épaulards connus sous le nom de Yaka, une femelle, et Nepo, un mâle. Ils avaient tous deux été capturés en 1969. Nepo décédera en 1980, alors que Yaka nous quittera en 1997. Petite anecdote, Orca, le titre du film, est un clin d'œil au nom du bateau de pêche de Quinn, interprété par l'acteur Robert Shaw dans le film Jaws. Au niveau de la trame sonore du film, ce sera le compositeur italien Ennio Morricone qui la réalisera. Bien qu'elle ne soit pas créditée à l'écran, la chanson « My Love, We Are One » sera composée par Morricone et interprétée par Carol Connors. Le film aura son avant-première au Lakewood Center Theater de Lakewood en Californie le 24 mai 1977. Dino De Laurentiis et deux autres têtes dirigeantes de Paramount Pictures, Barry Diller et Michael Eisner, présenteront le film devant l'auditoire. Lors de sa sortie officielle en salle, Orca sera présenté dans plus de 775 salles de cinéma sur le continent nord-américain et amassera plus de 3,5 millions de dollars durant son premier week-end. Malgré des critiques très mitigées de la presse, le film étant comparé à Jaws, Orca aura tout de même un petit succès au niveau du box-office international. Ayant tout de même apprécié son expérience sur le tournage, l'acteur Richard Harris sera offensé par la comparaison avec Jaws, prétextant que les journalistes n'avaient pas bien compris le long métrage. Du côté des points forts, eh bien, l'interprétation de l'acteur Richard Harris est tout simplement superbe ici, nous montrant un personnage qui est déchiré par les événements de l'histoire et qui vit de manière dramatique un geste qu'il a commis et dont il avait lui-même été victime plusieurs années auparavant. Harris réussit ici à nous donner une dimension à son personnage antipathique, ce qui fera de lui un vilain avec des émotions pour lequel l'auditoire saura développer un intérêt. Il y a également quelques scènes dérangeantes au début de ce long métrage, la séquence où l'on découvre que la femelle du Orca était enceinte est, sans contredit, une des scènes les plus mémorables du film. La photographie sous-marine de Ted Moore mérite d'être soulignée ici, tout comme certains effets spéciaux de l'artiste Alex Weldon. Malgré ses faiblesses nombreuses, Orca est tout de même un bon petit film avec un message contre la violence gratuite faite par l'homme vis-à-vis la vie aquatique. Mais du côté des points faibles, en dépit des explications pseudo-scientifiques et de la qualité de certains passages documentaires dus au spécialiste italien Folco Wilici, on a du mal ici à croire aux éléments de cette odyssée maritime. En effet, l'histoire ne fait aucun sens et il faut quand même être capable de mettre son cerveau à off pour savourer le spectacle offert. La réalisation de Michael Anderson, bien que correcte, manque de vie quelque peu. Malgré un rythme assez bien soutenu, le film souffre de certaines longueurs dues au récit simpliste et fantaisiste. Le reste de la distribution est beaucoup plus artificielle que convaincante, cette dernière donnant l'impression qu'elle ne sait pas trop quoi faire avec ses lignes de scénario données. Bien que certains effets spéciaux soient bien faits, d'autres font tout simplement amateurs et surtout répétitifs, la même image étant utilisée continuellement à plusieurs moments dans le film et tout simplement juxtaposée maladroitement sur une séquence désirée. On parle ici, bien sûr, de ce moment où Orca saute hors de l'eau pour, bien sûr, retomber dans l'océan par la suite. La musique sublime du compositeur italien Ennio Morricone devient également répétitive. On a l'impression que le compositeur n'a réalisé qu'un seul thème pour ce film qui est continuellement réutilisé, à croire que le budget de la production ne permettait qu'une courte création musicale du maestro. D'ailleurs, lorsque l'on regarde Orca, on a continuellement l'impression de regarder un film de série B sans budget, ce qui nuit grandement au spectacle, le réalisateur n'ayant nullement ici le talent d'un Steven Spielberg dans Jaws. Au niveau de la composition musicale, eh bien, comme je le disais un peu plus haut, c'est le compositeur italien Ennio Morricone qui fait ici la trame sonore du film, lui qui avait réalisé la musique des films Untouchables, Once Upon a Time in the West, The Mission et The Professional. Je vous présente ici le thème musical du film Orca.
Yum, yum. It's time for a tasty and refreshing snack. Promise to satisfy your hunger, your thirst, your sweet tooth. So visit our refreshment center now. Let's go!
There's a place not many people know how to get to.
Boy, don't you worry.
It's not found on any map.
You'll find yourself.
There are no road signs.
Follow your heart.
But when you get there,
and nothing else,
you'll know.
And be a sipper,
Bush.
Kind of
head for the mountains of Bush beer.
Zoom! It's Zoom, the new ice space lolly with three fruit flavor stages. And there's a space picture card with every Zoom. Get your Zoom now.
This is what S&H Pink Stems can mean to you. These are a few of the things you can get with S&H Pink Stems, the world's leading trading stamp company. Would you like to see some more? Why don't you save S&H Pink Stems? Shop wherever you see this sign.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
The coming attraction.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Ever since the beginning of time, man has pitted himself against the power of the sea to learn its secrets, to solve its mysteries. Many stories have been told of ships and the men who sail them, of sea beasts and the men who hunt them. But none has captured the imagination through the years so much as Herman Melville's immortal story of Captain Ahab, who lost his very soul in the bitterness of vengeance against the great white whale, Moby Dick.
You're to look for a white whale. A whale as white and as big as a mountain of snow. To chase that white whale on both sides of land and over all sides of earth till he spouts black blood and rolls dead out.
Think what they're doing, I bet they think.
Set the mainsail!
No, sir, no!
Mr. Starbuck, are you opposing me? If so, I'll have you know that there's one God that is Lord over the earth and one captain over the Pequod.
A whale can stave in the ribs of the biggest ships, swallow whole crews, pick its teeth with the oars. Mind, lad, God ever wanted to be a fish, he'd be a whale. Believe that, he'd be a whale.
Oh, did you see him, man?
Ce film d'aventure distribué par les studios Warner Brothers le 27 juin 1956. Ce film américain et britannique d'une durée de 116 minutes a coûté 4,5 millions de dollars à produire, mais amassera 5,2 millions de dollars au box-office nord-américain. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène John Huston, ce réalisateur américain qui nous a donné les films Maltese Falcon, Annie, la version 1982, et The Bible. Du côté de la production, eh bien, c'est encore une fois John Huston qui va s'occuper de la production, lui qui avait produit les films Beat the Devil et The Kremlin Letter. Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve l'auteur Ray Bradbury, ce scénariste américain qui a écrit les scénarios de The Picasso Summer et de la série télé de Ray Bradbury Theater, ainsi que John Huston, ce scénariste américain qui a écrit les scénarios de Key Largo, The Killers et Mr. North. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Gregory Peck dans le rôle du capitaine Ahab, Richard Basehart, Leo Genn, James Robertson Justice, Harry Andrews, Bernard Miles, Noel Purchill, Edric Connor et Orson Welles. En 1840, le jeune Ismaël se rend à New Bedford où il espère s'engager à bord d'un baleinier. La magnifique réputation du capitaine Ahab, au passé mystérieux, l'attire et il s'embarque alors sur son navire, le Pequod, lancé à la poursuite de Moby Dick, la baleine blanche monstrueuse qui amputa jadis Ahab d'une jambe et dont ce dernier veut se venger, et ce, à n'importe quel prix. La maison de production et de distribution Warner Brothers avait réalisé deux adaptations cinématographiques basées sur l'œuvre littéraire de l'écrivain Herman Melville, écrite en 1851. Deux de ces œuvres mettront en vedette l'acteur John Barrymore dans le rôle du capitaine Ahab. La première adaptation sera le film muet de 1926 The Sea Beast, qui fut réalisé par le metteur en scène Millard Webb, et une autre en 1930 intitulée Moby Dick, qui fut réalisé par Lloyd Bacon. Le studio avait également réalisé une version en langue allemande du film en 1930 intitulée Demon des Meeres, qui fut réalisé par Michael Curtiz et qui mettait en vedette les acteurs Wilhelm Dieterli et Lissy Arna. Contrairement au film de 1956, ces films explorèrent la première rencontre d'Ahab avec Moby Dick, rencontre qui lui coûta l'une de ses jambes. En septembre 1946, la compagnie Warner Brothers annoncera que le producteur Henry Blank produirait une nouvelle version de Moby Dick en utilisant un scénario écrit par le réalisateur-producteur John Huston. Warner Brothers acceptera de financer le film à la condition qu'un grand nom soit choisi pour le rôle principal, alors que Huston désirait que son père Walter interprète le personnage principal. Malheureusement pour Huston, son père décédera en 1950. En mars 1949, on annoncera que l'acteur Errol Flynn était considéré pour le rôle d'Ahab, tout comme Gary Cooper, Burt Lancaster, John Wayne et Gregory Peck. En février 1952, on annoncera que l'acteur Marlon Brando jouera le rôle principal et que Montgomery Clift serait intéressé par le rôle d'Ismaël. Cependant, en 1952, les deux acteurs quittèrent le projet après que Warner Brothers n'ait pas réussi à réenregistrer les droits d'auteur de l'œuvre littéraire qu'ils possédaient depuis les années 20, forçant donc la compagnie à abandonner ses projets de réalisation du film en apprenant que 6 autres sociétés avaient la priorité sur Warner Brothers pour acquérir les nouveaux droits cinématographiques. Mais finalement, ce sera en juin 1953 que la compagnie Warner Bros. Annoncera qu'elle avait obtenu les droits de distribution cinématographique de Moby Dick à travers le monde pour les 7 prochaines années en cofinançant un nouveau projet avec les frères Harold et Marvin Mirisch de la compagnie Moulin Productions. Ces deux hommes avaient également financé le Moulin Rouge de John Huston que ce dernier avait réalisé en 1953. Dans l'entente qu'il est lié à la compagnie de distribution, il était spécifié qu'après 7 ans, tous les droits retourneraient à la compagnie Moulin Productions. Suite à la confirmation de la réalisation du projet, ce sera l'acteur Gregory Peck qui sera finalement choisi pour interpréter le personnage du capitaine Ahab. En septembre 1953, l'écrivain de science-fiction Ray Bradbury fut embauché pour réécrire le scénario aux côtés de John Huston. Les deux hommes s'étaient rencontrés après que Bradbury, un admirateur des films de Huston, ait envoyé une copie dédicacée de son livre The Martian Chronicles au réalisateur, qui a ensuite discuté de l'idée de retravailler son scénario écrit au milieu des années 40, condensant ce dernier en moins de 2 heures. Ce sera la première fois de sa carrière que Bradbury, qui n'avait jamais lu l'œuvre littéraire de Moby Dick, écrira un scénario de film. Une fois le scénario retravaillé, les auteurs Roald Dahl et John Raymond Godley feront quelques retouches sur celui-ci. Le tournage débutera au printemps de 1954 à Youghal, en Irlande. Certaines parties du film ont été tournées en mer devant Canical, une paroisse baleinière traditionnelle de l'île de Madère, au Portugal, durant une véritable chasse à la baleine. Certaines séquences seront également tournées en Espagne. Huston et le directeur de la photographie, Oswald Morris, ont convenu qu'un style de couleur moderne, orthodoxe, serait en contradiction avec l'ambiance et le sujet de l'époque du film. Afin de créer un effet visuel rappelant les anciennes gravures de chasse à la baleine des années 1840, le film sera tourné en Technicolor, à partir duquel 2 négatifs ont été réalisés, soit un en couleur et un autre en noir et blanc. Les 2 négatifs seront alors superposés l'un sur l'autre, donnant ainsi le style d'image recherché, une première dans le domaine cinématographique. Dès le début de la production, John Huston désirait tourner le film entièrement en mer. Cela s'avérera impossible, le metteur en scène devant se résigner à tourner ses séquences de plans rapprochés dans les studios d'Elstree. C'est à cet endroit, d'ailleurs, que sera construite une réplique du pont du Pequod et des caméras seront alors suspendues au toit du studio et arrangées de façon à reproduire le mouvement d'un navire durant une tempête. La séquence d'Ahab accrochée à une baleine a été tournée dans un réservoir du studio. De plus, l'intérieur de la chapelle des baleiniers, dans lequel apparaît l'acteur Orson Welles dans le rôle du père Maple, a également été tourné dans les studios de Elstree. Mais avant cela, le reste de la production se fera en extérieur ou encore en pleine mer. Pour le navire de Ahab, Huston trouvera une goélette à 3 mâts bâtie en 1887, soit le Rylands, à Scarborough en Angleterre. Ce navire, qui était alors utilisé comme attraction touristique, avait servi pour représenter l'Hispaniola dans le film de Walt Disney, Treasure Island, en 1950. Conformément au roman de Melville, Huston fit réaménager le navire avec une barre fabriquée à partir du crâne d'un épaulard et d'une mâchoire de cachalot. Pendant que les acteurs et l'équipe tournaient, un équipage de vrais marins, commandé par le capitaine Alan Villiers, contrôlait le navire en mer. En 1972, le Rylands sera complètement détruit dans un terrible incendie à Morecambe, en Angleterre. La baleine Moby Dick a été construite par la compagnie Dunlop à Stoke-on-Trent, en Angleterre, et sera faite d'une structure métallique de plus de 75 pieds de long, recouverte d'une surface caoutchoutée. Le modèle complet coûtera environ 30 000 $ à produire, la baleine artificielle pesait 12 tonnes et nécessitait plus de 80 drums d'air comprimés et un système hydraulique pour rester à flot et opérationnel. Durant la production en mer, aux îles Canaries, une quasi-catastrophe se produira lorsque la remorque de la baleine s'est cassée pendant le tournage et celle-ci partira à la dérive alors à l'intérieur d'un épais brouillard avec l'acteur Gregory Peck attaché sur son dos. Presque toutes les prises de vue de la baleine blanche sont des miniatures de différentes tailles filmées dans un réservoir d'eau dans les studios Shepperton à Surrey, près de Londres. Les modèles de baleines et de chaloupes ont été construits par le spécialiste des effets spéciaux August Lohmann, en collaboration avec le directeur artistique Stephen Grimes. Les prises de vue en studio comprenaient également une mâchoire et une tête grandeur nature de Moby Dick avec des yeux fonctionnels. La tête pouvait se déplacer comme un cheval à bascule et sera utilisée lorsque les acteurs étaient dans l'eau avec elle. Lors des scènes avec l'acteur Orson Welles, ce dernier écrira lui-même le dialogue de son monologue à l'église au début du long-métrage. Tout l'argent qu'il amassera pour cette production lui permettra de financer sa propre adaptation théâtrale de Moby Dick, qui mettra alors en vedette l'acteur Rod Steiger dans le rôle du capitaine Ahab. John Huston déclarera plus tard que Moby Dick fut le film le plus difficile qu'il ait jamais réalisé, et pour cause. Le tournage fut éprouvant pour les acteurs, notamment Gregory Peck qui, voulant lui-même faire ses propres cascades, se blessera à la rotule. Pour l'acteur Richard Basehart, ce dernier se brisera la cheville en sautant dans une chaloupe, alors que l'acteur britannique Leo Genn, qui interprétera le personnage de Starbuck, se blessera au dos et attrapera une pneumonie avant la fin du tournage. De plus, comme le film fut tourné sur la mer à bord d'un véritable bateau, des problèmes dus à la mauvaise température et à de multiples problèmes techniques avec la baleine, ajoutés aux blessures subies par les acteurs, rallongeront alors les délais de production, faisant doubler le budget du film qui passera de 2 à 4,5 millions de dollars, forçant ainsi la compagnie Moulin Productions à vendre ses droits cinématographiques à la compagnie United Artists, qui allait finalement être la compagnie qui reprendra les droits de Moby Dick après les 7 ans où ces 10 droits appartiendront à la Warner Brothers. La production sera également difficile pour le réalisateur au niveau de ses relations avec le scénariste Ray Bradbury et l'acteur Gregory Peck. Du côté de Bradbury, il y avait beaucoup de tensions et de colère entre les deux hommes pendant la réalisation du film, prétendument en raison de l'attitude d'intimidation de Huston et des tentatives de dire à Bradbury comment faire son travail. Dans le roman de Bradbury intitulé « Green Shadows, White Whale », l'écrivain réalisera ici une version fictive de son expérience d'écriture du scénario avec John Huston en Irlande. Une autre nouvelle de Bradbury intitulée « Banshee » sera un autre récit fictif de son expérience de travail avec le réalisateur américain sur ce film. Du côté de Peck, Huston et l'acteur se disputeront peu de temps après le début du tournage. En effet, l'acteur découvrira à sa grande déception qu'il n'avait pas été le choix de Huston pour Ahab, mais qu'en réalité, il avait été imposé au réalisateur par les frères Mirisch ainsi que par la compagnie Warner Bros. Pour obtenir son financement. De plus, Peck estimait à l'époque qu'il était beaucoup trop jeune pour interpréter ce personnage légendaire, alors que Huston l'avait convaincu du contraire simplement pour que ce dernier accepte le rôle du capitaine. Des années plus tard, l'acteur tentera de régler ses différends avec le réalisateur, mais Huston ne voudra rien savoir, les deux n'ayant plus jamais de contact par la suite. Néanmoins, la fille de Huston, Angelica, qui avait rencontré Gregory Peck habillée en Ahab lorsqu'elle visitera à un très jeune âge le tournage de Moby Dick, reverra l'acteur quelques décennies plus tard, et elle et Peck deviendront alors des amis très proches jusqu'à la mort de ce dernier le 12 juin 2003. Il est à noter que Peck était à l'époque âgé de seulement 38 ans, le personnage de Ahab en ayant 58. Il est également amusant de noter que l'acteur Richard Basehart, qui interprétait un personnage dans la vingtaine, était lui âgé de 40 ans au moment du tournage. Au final, le film sera une véritable déception au box-office, le film ne remboursant pas ses frais de production lors de sa sortie initiale. Une adaptation du comic book sera réalisée par la compagnie Dell en août 1956. Du côté des points forts, eh bien, Moby Dick est une adaptation tout simplement spectaculaire et soignée du roman de Herman Melville. John Huston réussit ici à nous donner une œuvre cinématographique qui s'écoute comme si on lisait le livre de Melville. La distribution du long-métrage est parfaite, à l'exception de Gregory Peck, qui a tout de même plusieurs excellents moments. De plus, les maquillages et les costumes, tout comme les décors, aussi si la qualité du spectacle final qui nous est offert. L'ensemble de l'œuvre cinématographique se veut tout à fait spectaculaire, tant au niveau visuel que scénaristique, le film se permettant même par moments d'appuyer sur plusieurs aspects symboliques et philosophiques. De plus, l'aspect quasi documentaire sur la chasse à la baleine et la poursuite en mer ressemble quelquefois à un récit biblique de l'époque. Les effets spéciaux pour la période sont tout simplement époustouflants, tout comme la qualité du réalisateur de filmer ceux-ci afin de les rendre totalement crédibles, faisant de Moby Dick l'une des œuvres les plus marquantes, non seulement de son époque, mais de toute l'histoire du cinéma nord-américain. Finalement, on assiste ici à la déchéance d'un homme qui mènera son équipage à sa perte, équipage qui sera hypnotisé par la folie de leur capitaine, tels les membres d'une secte de nos jours. Du côté des points faibles, eh bien, c'est l'interprétation de Gregory Peck qui est ici instable. Par moments, on croit à la folie du personnage, l'acteur disparaissant complètement derrière son personnage. Cependant, par moments, l'acteur tant aimé du public refait surface et on oublie alors que l'on regarde le personnage du capitaine Ahab et on se retrouve à admirer tout simplement la prestation de l'acteur Gregory Peck, faisant en sorte que certaines séquences sont quelque peu troublantes. On peut comprendre d'une certaine façon pourquoi l'acteur ne se trouvait pas non seulement à la hauteur du rôle, mais peut-être également trop jeune pour interpréter celui-ci. Les dialogues sont très poétiques et l'interprétation très théâtrale, ce qui pourrait déplaire aux spectateurs habitués à des dialogues beaucoup plus fluides aujourd'hui et à des interprétations beaucoup plus réalistes. Le film se veut un symbolisme poétique, ce qui nous donne ici un film lent, sans grande action, où l'on assiste au contrôle d'un homme sur son équipage, mené par une folie de vengeance. Seules les 10 dernières minutes combleront les amateurs d'action lors de la confrontation finale, qui vaut bien sûr toute l'attente. La narration voix off, ainsi que certains segments musicaux, nous donnent par moments l'impression d'écouter un film de Walt Disney, tel L'île au trésor.
Au niveau de la trame sonore de Moby Dick, c'est le compositeur Philip Prosper Sainton, ce compositeur franco-britannique, dont il s'agit ici de la première trame sonore instrumentale et qui avait également réalisé la trame sonore du film A King in New York en 1957. Donc, je vous fais écouter ici le thème de Moby Dick.
Thank you.
côté des cotes artistiques, eh bien, du côté de Orca, Mediafilm cote le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Au niveau des âges et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote Orca 13 ans indicatif. J'y vais également avec 14 ans pour quelques scènes de violence. Au niveau de Moby Dick, eh bien, du côté des cotes artistiques, Mediafilm cote le film 2. J'y vais également avec un 2. J'ai arrêté avec un 1 parce que je trouve que pour l'époque, c'est vraiment spectaculaire, sauf qu'il y a beaucoup trop de longueur et peut-être l'aspect poétique qui peut déranger quelque peu. Au niveau de la régie du cinéma, eh bien, le film est coté général. J'y vais également avec une cote pour tous. Au niveau des trames sonores, eh bien, pour Orca, eh bien, la trame sonore sortira pour la première fois en CD le 10 mars 1995 sous l'étiquette Legend, avant de ressortir de nouveau en version remasterisée le 6 mars 2017 sous l'étiquette Music Box Record. Il s'agira ici d'une édition limitée à seulement 500 exemplaires. Du côté de Moby Dick, eh bien, pour la première fois, nous pourrons mettre la main sur la trame sonore en 1998. Ce sera l'étiquette Marco Polo qui sortira ce CD de 63 minutes. Nous aurons par la suite, le 12 mars 2015, une édition de base qui sortira sous l'étiquette Vintage Music en CD et en digital, pour finalement avoir une version beaucoup plus longue, soit les versions de l'étiquette Marco Polo, qui sera rééditée de nouveau le 3 juillet 2015 sous l'étiquette Naxos. Donc, encore là, une trame sonore de 63 minutes. Au niveau du DVD et du Blu-ray, eh bien, on peut retrouver Orca en Blu-ray et en DVD, version française et version anglaise, tout comme le film Moby Dick, qui est également distribué en DVD et en Blu-ray dans les deux langues. Il n'existe malheureusement pas pour le moment de version 4K de ces deux productions. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.